Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour cette rencontre consacrée au premier roman avec trois auteurs que je vais bien sûr vous présenter tout de suite. Au préalable, j'aimerais vous dire ou vous rappeler que cette rencontre a lieu dans le cadre bien sûr du Festival Effraction, mais également du prix des lecteurs et des lectrices des bibliothèques de la ville de Paris qui remettent chaque année un prix à un premier roman. Donc les votes pour l'édition 2024 sont désormais clos. En revanche, la remise du prix, elle, aura lieu le 13 avril à 14h dans le cadre du Festival de Livre Paris. Et donc, vous y êtes tous, bien évidemment, conviés. Enquête d'identité, indique notre rencontre. Il s'agit effectivement de trois romans qui racontent la quête de personnages qui sont tous au seuil de l'âge adulte et qui sont des personnages qui... Alors, l'objet de notre discussion va être, bien sûr, d'affiner tout cela, mais que, disons, de manière un peu rapide, je pourrais dire qu'ils débordent des cadres préétablis. Ce sont des personnages qui échappent aux normes et qui fuient des carcans à l'intérieur desquels ils étouffent. Et quand j'emploie le verbe fuir, c'est à dessein, puisqu'il y a dans les trois romans un mouvement qui se traduit par le voyage, l'éloignement nécessaire pour pouvoir accomplir qui l'on est. Voilà. Alors, j'ai promis des présentations, donc je les fais. Raphaël, qui est au milieu, Raphaël Red, né à Paris. Vous vivez aujourd'hui à Berlin, vous avez étudié les sciences sociales avant de vous tourner vers la littérature. Et pour l'écriture de ce premier roman, à 10 coups, vous avez été en résidence à la Maison des artistes de Lomé, donc au Togo, et votre roman est paru aux éditions Grasset. Alice Renard, Alice qui est à l'autre bout de notre petit cercle, vous avez passé un baccalauréat filière scientifique et ensuite effectué des études de littérature médiévale à la Sorbonne. Et votre roman La colère et l'envie, qui est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson, a reçu le prix Méduse et le prix de la vocation. Et puis Louis Vandel, vous avez fondé plusieurs médias littéraires, dont la revue Zola, dont vous êtes le directeur de publication. Et c'est une maison d'édition dont l'objet est de raconter le réel, ce qui bien sûr fait écho à l'esprit de ce festival Effraction. Donc des expériences qui vous ont conduit finalement à prendre la plume pour rédiger ce premier roman qui s'intitule Solal ou la chute des corps, qui est paru aux éditions du Seuil. Comme je parlais d'éloignement et de voyage, j'ai envie qu'on parte avec le roman qui nous emmène peut-être le plus loin, quoique dans un autre, il est question d'un voyage un peu différent, mais je voulais commencer par le vôtre, Raphaël, puisque nous partons avec ce roman au Togo, essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement au Togo, avec à 10 coups, donc en quête de ses origines, mais plus qu'une enquête. C'est une quête très profonde, puisqu'il s'agit d'une quête d'identité, et qui porte notamment sur un sujet qui est récurrent dans le roman, qui est la question de la couleur de peau. C'est une des caractéristiques de ce livre que d'interroger beaucoup, notamment le métissage, vous en parlez énormément, et de ces regards qui peuvent assigner parfois une personne précisément à son appartenance raciale. Vous dites de Hadikou, et j'aime beaucoup cette phrase, qu'elle guette sa peau dans le regard des autres. Voilà, donc ça dit vraiment sa sensibilité à la question.
Oui, complètement. Bonjour. Oui, en fait, et d'ailleurs, vous avez employé le terme d'assignation raciale, et je pense que c'est vraiment de ça qu'il est question, peut-être plus même que de la couleur de peau en elle-même. C'est en fait des catégories qui lui font prendre un certain sens dans certaines sociétés. Et ce qui m'intéressait dans l'écriture d'Hadikou, et justement dans ce mouvement et dans le voyage, c'était aussi le fait de montrer que ça ne peut pas vraiment être de la couleur de peau qu'il s'agit, puisque la manière dont elle est perçue change d'un lieu à un autre. D'où la nécessité aussi pour moi de raconter cette histoire en mouvement et avec le voyage comme partie essentielle. Et donc voilà, je pense que c'est un peu au cœur du récit. Ouais.
C'est un retour vers le passé familial dont il s'agit, passé familial de son père. Donc c'est ce qu'elle entreprend en partant au Togo, un père qu'elle a peu connu et vis-à-vis duquel elle entretient une certaine rancœur. Et dans l'un des 8 souvenirs qu'elle a avec son père, dites-vous, il l'appelle l'enfant démocratie, comme pour mieux marquer ce qui les sépare. Et toute la question, en fait, du livre et de cette quête, c'est précisément ce qui peut séparer une fille de son père qu'elle a, au fond, peu connue.
Complètement. En fait, c'est vraiment c'est ce qui les sépare, et donc, en miroir, la question de la transmission et de ce qu'il advient quand la transmission est impossible pour diverses raisons, parce qu'il y a l'éloignement physique, il y a aussi peut-être, et ça je pense que c'est un sujet qui revient souvent dans les littératures en Allemagne, ils emploient le terme de post-migrante, littérature post-migrante, et c'est un terme qui m'intéresse parce que pour moi il fait vraiment écho à ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il advient de la génération qui suit la migration ou qui suit l'exil. Et une des grandes questions que pose Adikou régulièrement dans le roman, c'est est-ce qu'on peut hériter de l'exil. Et je crois que c'est ça en fait ce qui m'occupe ou ce qui me préoccupe, c'est cette question de qu'est-ce qui peut être transmis quand les contextes dans lesquels quand le contexte dans lequel un enfant grandit est si éloigné de celui d'un parent, d'un père ou d'une mère. Et ce que je trouve super avec cette question, c'est qu'en plus, elle ne se pose pas seulement selon des termes d'origine géographique ou culturelle, elle se pose aussi énormément par rapport à des questions de classe, par exemple, dans beaucoup de cas. Et donc, il y a aussi une dimension assez, je veux dire, peut-être universelle, ou en tout cas qui réunit en fait beaucoup.
Il y a ce motif du départ dont je disais tout à l'heure qu'il vous est commun à tous les trois, et on y viendra bien sûr avec vos romans également, Louis et Alice. Au départ, dans votre roman à vous, le départ peut être considéré comme une forme de fuite en avant, et puis parce que c'est une jeune femme qui suffoque complètement dans un enfermement dont elle n'arrive pas à se sortir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus le voyage avance, plus les perspectives s'ouvrent, et plus clairement le voyage devient en fait une quête initiatique.
Complètement. Et en fait, je pense que l'objet de la quête, il évolue au fil Oui, l'objet et les destinations évoluent au fil du voyage, mais pour moi, l'objet central de la quête, c'est le départ en lui-même, en fait, c'est la fuite. Et du coup, c'était aussi une volonté d'écrire le roman d'une manière à ce que la structure narrative rende compte de ça. En fait, les premiers chapitres, notamment, sont vraiment tous marqués par le départ, et dès qu'on pense arriver à un endroit, on le quitte à nouveau. Et c'était aussi pour rendre compte de ça, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a une certaine idée de la quête ou de ce qu'elle devrait être qui est très marquée par le discours sur les origines. C'est un lieu, il y a un point, il faut le trouver, il faut y aller, et puis les choses vont mieux, en gros. Et moi, j'avais un peu envie de dérouter aussi ce discours-là dans le roman. Et un des mécanismes, c'est effectivement le fait de repartir à chaque fois, quoi, d'être un peu toujours dans ce mouvement-là.
Ça, c'est très intéressant, le fait que finalement, il n'y a pas de ligne droite dans la quête. Qui se déroule alors de surcroît en plusieurs lieux, ce qui permet aussi d'éclater un peu les frontières, puisqu'il y a essentiellement le Togo, mais également des pays frontaliers, le Ghana, le Bénin, et puis au loin le sud des États-Unis. Et ce qui est très intéressant dans le mouvement que vous mettez en place dans le roman, c'est qu'au fond, votre personnage laisse faire les choses. Elle est perdue à un moment donné, donc elle choisit de laisser advenir ce qui doit advenir, et elle ne force jamais rien.
Oui, c'est joliment dit. Mais je pense que il y a en fait ce personnage, il est raconté pendant une grande partie du récit par une narratrice. Et déjà, la narratrice et Adikou, elles sont pas toujours d'accord sur ce que c'est l'histoire à raconter et sur ce qui est en train de se passer. Et donc, ne serait-ce que ça, déjà, ça empêche un peu la linéarité, parce que si ça remet en question l'idée qu'il y a une version de l'histoire. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis, y a mes amis, dont certains sont présents ici, pendant des années, je disais, mais oui, mais en fait, la structure du roman, ça va être une spirale, c'est une spirale. Et tout le monde disait, oui, ok, Raphaël, c'est une spirale. Ben, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un roman en spirale? Et je crois que c'est vraiment pour moi cette idée qu'effectivement, elle se laisse emporter par un espèce de tourbillon et qu'en fait, ce que moi, je trouve assez beau, c'est le fait que cette, l'impression de tourner en rond, que j'imagine qu'on a quand on tourne en spirale, elle est assez forte et elle peut donner l'impression qu'elle est perdue et immobile malgré tous ces mouvements un peu frénétiques et tout ça, mais qu'en réalité, en tournant en spirale, on se rapproche quand même à chaque fois un peu plus de quelque chose, même si on a l'impression de passer à chaque fois à un endroit où on est déjà passé. Mais il y a quand même ce mouvement-là qui définit la quête, d'après moi.
Alors, il y a encore une caractéristique de votre livre que j'aimerais souligner. Et après, on va poursuivre, bien sûr, les présentations avant de... J'ai oublié de le dire tout à l'heure, d'ouvrir la conversation à ce qui relie aussi vos romans, parce que ça me semble très important. Mais une des caractéristiques de votre roman que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'est le fait que Adikou est suivi par un jeu, qui est le jeu de la fiction, donc la narratrice. Et c'est une narratrice qui a une étrange position, parce qu'à la fois elle assume le jeu de la fiction, et en même temps elle se tient à distance. Finalement, elle finira par être un peu plus engagée à la fin du livre, mais d'une certaine manière, son identité n'est pas vraiment fixée.
Oui, bah de toute façon, je pense qu'il y a le personnage d'Adikou dont l'identité n'est pas fixée non plus, mais qui a cette idée que c'est l'objectif, il faut arriver à un endroit intérieur où l'identité est fixe et compréhensible, etc. Et puis il y a la narratrice qui en fait n'a pas d'identité, mais ça n'est jamais un problème dans le texte. Son identité, en fait, c'est son rôle, c'est sa fonction à ce moment-là, qui est celui de raconter l'histoire. Et elle dit dès le début, j'aimais les histoires, on m'a proposé d'en raconter une, et donc je pars. Et j'aimais bien... Ouais, je pense que, enfin, j'y réfléchis en même temps parce que c'est vrai que c'est la question qui me fait penser à ça. Mais je pense que c'est chouette aussi d'avoir en contraste un petit peu et peut-être en apaisement une narratrice qui est juste dans sa fonction et pas dans l'idée de trouver quelque chose de figé, de fixe, qui aurait trait à l'identité.
C'est un personnage qui est animé très souvent par un sentiment qui est le sentiment de la colère. Mais la colère au sens où elle peut devenir un sentiment au fond positif, une sorte d'énergie du désespoir qui permet d'avancer.
Oui, carrément. Et puis, c'est... moi, j'aime beaucoup la colère. Je trouve que c'est... Et je pense que se réapproprier, déjà s'approprier sa colère et surtout se réapproprier sa colère quand on est socialisé, enfin, je veux dire, par exemple, en tant que fille et ensuite femme, dans un contexte où vraiment ça fait partie des émotions les plus répréhensibles et les moins acceptables à canaliser, à masquer, etc. C'est un acte important et en plus c'est un acte qui a une puissance politique très très forte. Moi je lisais par exemple Audre Lorde pendant que j'écrivais ce roman qui écrit beaucoup sur la colère comme force politique et ça m'inspire. Et donc oui, j'aime que ça revient souvent comme question et ça me fait plaisir parce que c'est bien que le texte soit un peu colérique, je crois.
La colère, Alice Renard, c'est un des termes du titre de votre roman, La colère et l'envie, avec un personnage, Isor, qui est une enfant qui n'est pas dite comme les autres et qui est considérée pour certains comme une enfant attardée, pour d'autres tout simplement comme une enfant différente. Il y a une chose qui est importante à souligner d'emblée, de nombreux experts se sont penchés sur son cas, mais ses parents ont décidé de ne pas médicaliser la situation. Et donc il y a une sorte de huis clos qui va s'installer dans la première partie du roman. Il est construit en trois parties. Et dans la première partie, une sorte de huis clos s'organise autour d'Isor. Et j'aime beaucoup cette phrase, je trouve qu'elle la caractérise bien, et je vous cite, « Elle dont les gestes se moquent éperdument des millénaires de civilisation qui l'ont précédée. » Ça veut dire que c'est vraiment un personnage qui échappe à toute norme. Et au fond, c'est ce qui trouble tout le monde dans son entourage.
Mais cette phrase, elle parle de l'héritage et tout ce que tu as dit, je trouvais ça très intéressant, parce que Isor n'arrive pas à hériter des normes, parce que toutes les conventions sociales par lesquelles on interagit avec les autres, notre langage corporel, la manière de tenir un micro, de s'asseoir sur une chaise, de parler en public, on l'hérite d'un contexte autour de nous et de ce qui s'est passé avant, et Isor n'a pas cette transmission, et elle réinvente tout, comme si elle naissait dans un monde blanc, complètement blanc, qui rejoint peut-être son silence, qui est une sorte de désert blanc.
Oui.
Et dans ce désert blanc, chaque petite réalité, elle doit le recréer elle-même parce qu'elle n'est pas en capacité d'hériter.
C'est intéressant que vous parliez de monde blanc, parce qu'il y a effectivement ce mutisme d'Isor, du moins dans la première partie, puisque dans cette première partie, seuls les parents prennent la parole alternativement et sans qu'il s'agisse d'un dialogue d'ailleurs. Donc ils ne se tournent pas le dos, mais voilà, ils ne sont pas en dialogue tous les deux. Et on ne connaît que leur point de vue, avec des évocations de scènes du passé familial. Alors le père a plus de difficultés, il peut lui arriver même de parler de débilité, la mère est peut-être plus tendre dans ses propos. En tout cas, c'est très intéressant parce que c'est toute une variation autour de cette palette extraordinaire des mots qu'on peut employer dans le cadre de l'amour parental et de la difficulté aussi qu'on peut avoir à l'énoncer.
La situation initiale, c'est que tout le monde s'aime, mais que cet amour circule pas. Aujourd'hui, une des actualités de ma vie, c'est que je réfléchis beaucoup à ce que c'est l'amour, à ce que c'est de donner de l'amour. Et il n'y a pas longtemps, dans la rue, j'ai vu un tag avec écrit « Love » et un personnage qui donne son cœur, mais ce cœur est retenu par une ficelle à sa main. Et pour moi, ça symbolise que on a extrêmement de mal à donner de l'amour parce que on a envie de s'enchaîner à la personne qu'on aime. Il y a des dynamiques comme ça qui sont compliquées entre les parents d'Isor et Isor, parce que peut-être que la mère, en fait, elle est aussi dans une immense demande de complicité avec sa fille. L'amour qu'elle donne n'arrive pas à être entier et désintéressé, et de la même manière, le père, il vit les efforts qu'il fait pour son enfant comme un sacrifice. Et je pense qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on lui reproche les efforts qu'on fait pour lui. Et c'est comme si ce père, il avait une conception du père parfait qu'il devrait être, et que ce père parfait aménage son emploi du temps avec son travail pour prendre du temps avec sa fille, mais qu'il n'aimait pas faire ça. Et qu'il lui en voulait, et dans ce cas-là, cette aide, elle est inefficace, elle n'a pas de sens, et ça, c'est quelque chose qu'on est, je pense, tous amenés à faire à un moment ou à un autre de notre vie, où on essaie d'aider quelqu'un dont on veut, on lui en veut, qu'il nous extirpe de là où on est. Mmh. Voilà.
Les deux parents sont en tout cas désappointés par quelque chose qui fait une des caractéristiques que je trouve très attachante de ce personnage, c'est son étrange rapport aux langues. Je trouve ça assez fascinant. Alors son étrange rapport aux langues se traduit par le fait qu'elle est tout à fait capable de regarder la télévision en japonais et qu'elle a l'air de tout comprendre, alors que en français, elle semble avoir toutes les difficultés à s'exprimer et à comprendre sa langue maternelle, comme si elle utilisait des langues fantômes, peut-être pour se protéger.
Oui, donc ce qui se passe avec cette jeune fille, c'est qu'elle refuse de parler et que les médecins disent qu'elle n'a pas de problème biologique, physiologique, qui l'empêche d'avoir accès à la parole. Et de fait, quand elle a à peu près 10 ans, un jour, elle se met à parler une langue qui ressemble successivement à du mandarin, puis à de l'arabe, puis à de l'italien. Et en fait, ça n'en est jamais. C'est juste une sorte de mélodie. Et donc, c'est pour ça que les parents parlent de langue fantôme. Et Isor, c'est un roman qui est construit comme un parcours vers l'accès au langage. Parce que ce que cette jeune fille a à dire est immense. Et au début, elle a l'impression qu'il n'y a que... Donc tout à l'heure, je disais le silence qui est comme un désert, comme une vaste étendue. Et il n'y a que dans cette étendue immense qu'elle peut mettre les sentiments immenses qu'elle a à mettre. Et progressivement, elle va comprendre qu'elle peut utiliser le langage à sa propre manière en éclatant les codes. Et au début, ça commence par le fait de se saisir d'une forme de musique. Et la mère dit que en entendant ces langues fantômes, on sent quand même l'intention qu'elle a à y mettre. Et c'est peut-être comme les dialogues qu'on peut avoir avec les animaux, que on sent l'intention qu'ils ont, même si on ne comprend pas les sons qu'ils disent et que eux sûrement ne comprennent pas phonétiquement les mots qu'on leur dit, mais qu'à partir du moment où nous on pose une intention dans les mots qu'on parle, ils le reçoivent. Et donc voilà, elle explore tout ce chemin vers, c'est comme ça qu'elle explore son chemin vers le langage.
Dans le trajet d'Isor vers les mots, il y a une étape essentielle, et c'est la deuxième partie du roman. C'est une rencontre qu'elle fait avec un voisin qui s'appelle Lucien, qui est septuagénaire. Et entre ces deux êtres, pour lesquels le langage est une chose un peu compliquée, il va se passer une sorte de petit miracle. Ils vont se comprendre, tout simplement. Ils vont se comprendre, et puis vous parliez de l'amour tout à l'heure, de l'image de la ficelle. Surtout, Isor, elle va faire quelque chose de très fort pour ce monsieur, c'est que d'une certaine manière, elle va un peu le forcer, l'obliger à l'aimer. Et il se trouve que ce monsieur, très seul, n'a plus personne à aimer. Donc elle va lui réapprendre ce que c'est.
Oui, alors, cette relation qui est au centre du roman, c'est une relation d'amour. Mais qui prend pas les formes attendues d'une relation d'amour. Il n'y a pas de paroles, il n'y a pas vraiment de contact des corps, mais il y a un immense désir d'être ensemble, un grand bien-être d'être ensemble. J'avais envie de proposer cette sorte de nouveau scénario amoureux parce que je pense que Le rôle de l'écrivain, de l'écrivaine, c'est d'avoir une action sur nos imaginaires collectifs. Or, je trouve qu'un imaginaire collectif qui va très très mal dans notre société, c'est l'imaginaire de l'amour. On n'est pas une société qui arrivons à produire un imaginaire de l'amour qui nous aide au quotidien dans nos relations les uns avec les autres. Les schémas qu'on nous propose souvent ne marchent pas ou sont incomplets, où sont trop nombreux et on s'y perd. Et du coup, ma petite pierre à cette entreprise, c'est de proposer ce récit effectivement, ce vieil homme qui a vécu sa vie, mais qui a voulu l'oublier, et qui du coup est dans un espace étrange de repli, et Isor qui arrive comme une météorite qui fait exploser cette réclusion.
C'est dans la troisième partie du roman que Isor va finalement prendre la parole, et elle va le faire à l'occasion de lettres qu'elle envoie à ses parents parce qu'elle part. C'est le motif donc du départ dont on parlait déjà tout à l'heure avec Raphaël, départ nécessaire et indispensable parce qu'elle veut sauver son ami Lucien qui traverse un épisode douloureux et compliqué, et qu'elle sait que c'est en partant qu'elle va l'aider. Et alors dans ses lettres envoyées aux parents, là on découvre une langue absolument extraordinaire, qui est sa langue à elle, et c'est une sorte de déclaration de vie et d'amour, là encore, mais à sa manière à elle, qui ne ressemble pas à la langue telle que on s'attend à l'écrire dans une lettre.
Une des choses qui se passe dans ces lettres, c'est que Isor se remet à faire du lien. Et au début de l'intrigue, cette jeune fille, on a l'impression que c'est juste un élément perturbateur qui plombe la vie des gens qui sont autour d'elle et qui divise tout le monde, qui divise les parents, parce que vous l'avez dit, ils parlent chacun, mais ils ne se parlent pas l'un à l'autre. Ils sont chacun enfermés dans leur petit malheur, et c'est des malheurs qui ne communiquent pas. Et à la fin de cette intrigue, Isor se révèle enfin comme un personnage qui, au contraire, a le talent de lier les êtres entre eux. Et elle va réconcilier Lucien avec une personne chère. Elle va réconcilier Lucien, ce vieux monsieur, avec ses parents. Elle va réconcilier ses parents entre eux. Elle va, elle, enfin faire un lien avec ses parents. Et voilà, on va découvrir que c'est ça son profond talent. C'est d'être capable de faire communier les gens, comme on dit communier au sens vraiment sacré et religieux. C'est un rôle sacré qu'elle a, que les âmes puissent enfin se rencontrer et se comprendre dans une forme de face-à-face de vérité.
J'aime beaucoup que vous disiez ça, parce que je trouve que cette phrase-là, elle pourrait s'appliquer au personnage dont parle Louis Wendel dans son roman « Solal ou la chute des corps ». Alors, il s'agit du portrait d'un jeune homme qui est bipolaire de type 2. Vous êtes très précis sur la description de la maladie dans le roman, donc il faut l'être aussi. Et c'est un livre qui dit ce que ça peut signifier d'être atteint de cette maladie, donc d'être bipolaire quand on est un très jeune homme de 25 ans environ. Et c'est un livre aussi qui interroge beaucoup cette frontière parfois assez floue entre ce que l'on appelle l'anxiété et donc les troubles plus graves, qui sont des troubles psychiatriques. Alors, la première caractéristique de ce livre, et il faut tout de suite ça le mettre en place, c'est que c'est un livre vrai, vrai dans le sens où vous racontez des faits qui sont des faits réels. D'ailleurs, la petite note à la fin du livre revient au personnage réel dont vous racontez l'histoire. Mais au lieu d'un récit, au lieu d'un témoignage, vous avez fait ce choix de la forme romanesque. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'on a envie d'interroger.
Oui, moi, il me semblait que la nature de Solal pouvait être mieux racontée par ce prisme qui permet d'apporter de la couleur, de décrire les sentiments dans la profondeur. En fait, ça provient aussi du fait que l'histoire de Solal est romanesque. Donc, vous l'avez dit, il est bipolaire de type 2, il a failli mourir dans une phase haute de bipolarité, il est tombé d'un balcon. Il a décidé d'entreprendre un tour du monde à pied à la suite de sa reconstruction. Il lui est arrivé 1000 péripéties sur le chemin. Enfin, bon, c'est une histoire vraie qui n'est pas banale, quoi. Ouais. Et voilà, c'est à la fois parce que je trouve qu'elle méritait d'être racontée comme un roman, et parce que ça permet aussi d'accéder, je trouve, à un niveau de lecture qui est précis, en fait, que j'ai voulu essayer de créer une texture littéraire.
Alors, le livre repose sur les souvenirs du narrateur, qui est un ami très proche de Solal. Ils sont amis depuis qu'ils ont 20 ans. Dans cette maladie, il y a des phases hautes et des phases basses. Et le plus frappant de ce qui est décrit dans le roman, c'est l'absence totale de considération pour les conventions lorsque Solal se trouve en phase haute, ce qui l'amène bien sûr à des gestes et à des comportements limites.
Oui, c'est pour ça que ce que tu as dit tout à l'heure, Alice, à propos des conventions sociales,
ouais,
a résonné. Oui, en fait, Solal, quand il est dans une phase haute, a beaucoup plus d'interactions avec les autres, et effectivement, les conventions deviennent de moins en moins contraignantes pour lui. Il s'en affranchit, et parfois, effectivement, ça va assez loin, et ça peut entraîner des mises en danger qui sont parfois assez impressionnantes. Et effectivement, je crois que c'est l'un des principaux marqueurs, en fait. Il est en phase haute quand il n'est plus avec les autres, comme il est lors d'une phase stable, quoi.
Vous les décrivez, ces phases hautes, et vous décrivez surtout les signes qui permettent de les voir arriver. Et le narrateur, étant donné sa proximité avec lui, les connaît, comme tous les gens de son entourage. Faire la fête, sans arrêt, se mettre donc en danger, boire beaucoup, et être aussi dans le déni de la maladie. Alors, sur l'alcool, il y a beaucoup de pages qui sont consacrées à ça, parce que c'est aussi un livre sur l'ivresse et sur le mouvement. Et vous dites à un moment que, finalement, boire pour lui, c'est une façon de maximiser ses sensations. Donc c'est un être qui est vraiment en quête de toujours aller plus loin.
Oui, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas tellement dans quel sens ça se met en place. Est-ce que c'est l'alcool qui entraîne une phase haute? Est-ce que c'est la phase haute qui, tout à coup, crée un désir inarrêtable de faire la fête, de rencontrer des gens, de séduire? On ne sait pas tellement, mais ce qui est sûr, c'est que ça va te perdre. Donc quand Solal est dans une phase haute, il fait la fête à n'en plus finir, quoi. Et la mère de Solal, Laurence, dit en fait la solution à son problème, c'est ne pas prendre de substances. Elle appelle ça des substances. Donc l'alcool en premier lieu, mais aussi le tabac et le café qui sont des excitants, qui en fait agissent sur le psychisme des personnes qui ont une forme de fragilité psychiatrique de cet ordre-là. Mais oui, vous avez raison, c'est un livre sur l'ivresse. Et puis, en fait, ça vient interroger également, parce que le narrateur, c'est moi, en fait. Hein. Ça interroge aussi donc, la frontière entre l'euphorie et la folie, finalement. Mmh,
tout à fait.
Voilà, alors, on a tous plus ou moins de la propension à... accéder à des phases d'exaltation, de surchauffe même parfois. C'est une affaire de curseur, en fait. Et Solal, lui, va plus loin que ce qui semble être sain pour tout un chacun, quoi.
Quand vous dites le narrateur, c'est moi, c'est vrai que vous mettez cela clairement en scène dans le récit. Et vous dites d'ailleurs à un moment donné que, bien évidemment, enquêter sur Solal, c'est bien sûr s'interroger sur les raisons qui poussent à écrire un tel livre. Et finalement, c'est aussi se demander pourquoi l'un est du côté de la maladie, du côté des fous, comme diraient certains, et pourquoi lui, le narrateur, vous, est du côté des bien portants. Et c'est ça, cette interrogation qui est au cœur du roman, quand même.
Oui, alors ça, c'est arrivé au fil de l'écriture. Je n'avais pas prévu de m'interroger sur moi-même avant de me lancer dans l'écriture du livre. Mais c'est vrai que voilà, en creusant sa nature, en interrogeant ses proches, ses amis, sa famille, je me suis rendu compte des similarités qu'on a, lui et moi, au point que je me dis qu'on est fait du même bois. Simplement, il y a une différence fondamentale entre lui et moi, et donc entre lui et beaucoup de personnes, parce qu'en Solal, on retrouve, je pense, des caractéristiques qui ont une forme d'universalité aussi. C'est que même dans des phases d'exaltation, comme dans des phases... la mère de Solal appelle ça les phases gros chats, donc des phases... de perte d'énergie ou d'intérêt pour le dehors.
Les phases basses.
Les phases basses.
Ouais.
Même dans ces phases-là, la plupart des gens, et moi y compris, demeurent fonctionnels. Or, Solal n'est plus fonctionnel quand il est dans une phase haute. Et c'est pareil quand il est dans une phase basse. Quand il est dans une phase basse, il peut passer 3 mois d'affilée chez lui, dans sa chambre, à ne faire que boire et manger. Et dans une phase haute, c'est un peu la même chose, quoi. S'il sort jusqu'à 8h du matin et qu'il va au boulot à 9h, s'en ayant dormi 1 heure, il n'est pas très fonctionnel, quoi.
Il y a une chose assez remarquable dans ce roman, vous venez de parler de la mère. Solal a donc une famille qui est très présente. Il y a la mère, le père, il y a eu un oncle aussi qui a souffert de la même maladie que lui, dont il est question. Il a une sœur. Et puis il a des amis, il y a beaucoup d'amis autour de lui. C'est un être qui attire énormément et qui, en dépit de sa maladie, n'est pas seul du tout parce que c'est un être solaire. Et ça rejoint ce que disait Alice tout à l'heure sur la capacité que certains ont de créer des situations tout à fait inédites entre les gens.
Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui, parfois, en raison de cette forme de frénésie, qui lui confère une aisance remarquable. C'est un type dont on repère l'arrivée dans une pièce, quoi. Et il a quelque chose qui est effectivement assez difficile à décrire, un charme, une aura qui lui permet de fédérer autour de lui, mais quand il est dans une phase haute, il est aussi très chiant. Donc voilà, cette forme de confiance en lui qui le permet d'aller vers les autres et de créer très facilement des liens peut aussi devenir une forme de contrainte.
Dans le livre, il est également question de la peur de mourir. Vous accédez au carnet de Solal et dans un de ses carnets, Solal a noté ceci: j'ai récemment découvert ma mortalité. Et c'est vrai que parler de sa mortalité quand on a 20 ans, 25 ans, voilà, c'est quelque chose qui frappe.
Ouais, je crois que C'est une question qui effectivement est au cœur du livre, parce que enfin, c'est assez troublant. Quand j'ai mis effectivement la main sur ce carnet, je me suis rendu compte que j'avais aussi découvert ma mortalité au même moment que lui. Parce que c'est vrai que enfin, j'ai presque conduit l'écriture de ce roman comme une enquête au fond, parce qu'il s'agissait d'interroger ses souvenirs, et comme je voulais que tout soit à peu près vrai, voilà, ça a demandé d'aller assez loin dans la quête d'informations. Et donc voilà, quand j'ai mis la main sur ce carnet, ça m'a troublé de voir qu'il avait pris conscience de sa mortalité à peu près au même moment que moi, et je trouve que ça renforce un peu l'intrication narrative entre Solal comme personnage et puis moi en tant que narrateur. Et finalement, j'ai l'impression, mais alors là, c'est simplement par empirisme, quand je regarde autour de moi, les copains, les amis, la famille et tout, que finalement, cette conscience de la mortalité n'est pas forcément la même chez tout le monde. Et moi, je repère autour de moi les gens qui ont eu comme ça, tout à coup, cette conscience et cette peur du néant absolu qu'est la mort, quoi. Mmh. Et effectivement, c'est une question qui est un peu en filigrane dans le livre.
Il y a... Également dans votre roman, comme dans les deux autres dont on a parlé précédemment, ce motif du départ. Et là, ça n'est pas un petit départ, puisque Solal va finalement, au bout d'un certain nombre d'épreuves sur lesquelles nous n'avons pas le temps de nous arrêter, mais enfin, il prend une décision qui est considérable. Il décide de partir seul pour faire le tour du monde à pied. Et un départ de solitaire pour faire le tour du monde, ça veut dire 7 à 8 ans de marche, ce qui n'est pas rien. Donc c'est le signe d'une volonté incroyable, le signe d'un courage aussi incroyable. Et ce qui fait que quand on referme le livre, on se dit mais cet être si fragile, il a une force inouïe en fait.
Oui, je ne sais plus exactement comment je le formule, mais je dis à un moment que c'est à la fois l'être le plus friable que je connaisse et puis le plus costaud, le plus fort mentalement, physiquement aussi, parce que enfin, il a marché quand même 12 000 km jusqu'à Phnom Penh au Cambodge en partant de Paris. Donc effectivement, il y a une forme de résilience dans cette marche, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que lui a toujours refusé ce terme-là. Je me souviens d'un papier qui a été écrit, parce qu'il a eu un peu de presse autour de son tour du monde, il y a eu un papier qui s'intitulait « La marche de résilience », et lui disait « Ouais, c'est un peu cliché, c'est pas ça en fait ». Et au fond, c'est bien, parce qu'il part pas en se disant « C'est pas un défi, c'est pas quelque chose, c'est simplement une nécessité qui est apparue comme ça, parce que, en raison de sa maladie, il pouvait pas conduire une vie normale en France ».
Bien, les trois romans ayant été présentés, bien que nous n'ayons pas le temps, bien sûr, de tout dire, moi j'ai été très frappée, ayant eu donc la chance de vous lire les uns à la suite des autres, très frappée par le fait que vos trois personnages ont l'air d'être habités par une sorte d'intensité, voilà, on va dire ça comme ça, intensité, dont ils ne savent au fond pas quoi faire. Et... ce sont des romans dans lesquels vous montrez comment on peut arriver à canaliser une intensité dont on ne sait pas quoi faire.
Oui. merci pour l'eau.
Oui, on n'a pas.
Je pense que peut-être
oui, merci.
Brièvement, moi j'ai l'impression qu'en plus c'est double en fait, c'est-à-dire que. Enfin, on a déjà commencé à parler un peu du rapport entre, enfin, le fameux rapport entre personnage, narrateur, narratrice, auteur, autrice, et du mouvement d'écriture comme, enfin, l'écriture du texte comme la quête aussi. Et je trouve que, en tout cas dans le cas d'Adikou, c'est à la fois mettre en scène un personnage qui cherche à canaliser quelque chose d'assez ouais, de trop intense et de destructeur en elle, et en même temps, et c'est peut-être pour ça qu'il y a la narratrice aussi pour penser le rôle du récit et du fait de raconter des histoires, il me semble que raconter des histoires c'est un apaisement en fait. Enfin, c'est vrai pour moi du roman, de ce roman, mais c'est aussi vrai quand je pense au rôle que les histoires ont eu dans ma vie personnelle et privée, à commencer par les histoires qu'on nous lit ou qu'on nous raconte enfants pour qu'on se calme un petit peu après avoir trop joué, jusqu'à les histoires qu'on se raconte adultes pour essayer de faire sens d'un monde ou d'une vie qui parfois nous déborde quand même assez violemment. Quoi.
Mmh. Oui, canaliser l'intensité. Alice, dans votre roman, ça passe par les mots. Arriver à trouver une forme, mettre des mots sur les choses.
Oui, pour Isor, ça passe aussi par le fait d'aller dans un paysage qui lui ressemble. Parce que ce qui est douloureux pour elle, c'est dans ce huis clos parisien, d'être la seule représentante de cette intensité volcanique et dévorante. Et à un moment, la mère dit, c'est comme si elle nous faisait le reproche que les pièces autour d'elle étaient trop étroites. Et c'est la vérité. c'est trop petit pour elle. Et donc, dans la troisième partie, quand elle fait ce voyage en Sicile, ce qui est un immense choc pour elle, c'est d'être dans un paysage de volcan où l'immensité de la terre qui l'entoure lui ressemble. Et il y a un passage dans la deuxième partie où, pour la première fois, Isor écoute de la musique classique et elle est sidérée par l'intensité de cette musique. Et c'est écrit, c'est comme quelqu'un qui se verrait dans un miroir pour la première fois et qui ne comprend pas comment on peut avoir une image aussi juste de soi-même. Et en fait, elle vit ça aussi quand elle va en Sicile et qu'elle voit ces paysages qui sont dévastés de grandeur et qu'elle est sidérée de se voir comme si cette terre avait fait son portrait. Et ça, je pense que ça lui apporte beaucoup d'apaisement de se sentir en harmonie, oui, d'être enfin comme un poisson dans l'eau.
L'intensité, c'est un terme qui va bien à Solal, hein. C'est vraiment, on pourrait dire, même dire que c'est le mot qui le caractérise peut-être le mieux. Quant à la canaliser, c'est autre chose.
Oui, l'intensité, l'énergie. Solal, dans une phase haute, c'est un être de flux et de reflux. C'est-à-dire que l'énergie se dévore, elle se prend, et puis il faut la consommer tout de suite. Il mange énormément, il s'agit de beaucoup, quoi, en gros. Donc c'est vrai que c'est une affaire d'intensité. La canaliser, en fait, c'est la sobriété, l'absence de substance. Et puis cette marche, quand même, qui, même si on lui refuse le terme de marche de résilience, a eu des vertus thérapeutiques, puisque quand il est sur les sentiers, il est loin des villes, donc il est loin de l'excitation qui peut provenir de la fête.
Dans votre cas, il est évident et clair qu'il ne s'agit pas d'un roman de nature autobiographique. Dans votre cas, on ne le sait pas, il y a peut-être une part autobiographique, mais peu importe. En tout cas, est-ce que, à la base de ces trois romans, il y a des questionnements qui sont vos questionnements profonds et qui ont nourri et alimenté finalement la nécessité de ce premier roman ?
Pour moi, d'écrire à partir de quelque chose qu'on vit, c'est pas une paresse. Il y a beaucoup de gens qui posent la question comme si c'était une facilité. Ah oui, mais t'as écrit sur ta vie. Mais pour moi, c'est un pacte que je fais sur mon écriture, que j'écris à partir de choses qui sont actives en moi, qui sont vraiment une matière qui est vivante, qui sont des questionnements profonds, qui bougent, qui me transforment, qui agissent vraiment. Et je pense que c'est que quand on part de quelque chose aussi brûlant que le texte, il peut avoir qu'on peut lui donner du sang, qui peut se mettre vraiment à vivre, à pulser lui aussi, et qui peut être actif pour les gens qui le lisent en transmettant cette énergie de transformation. C'est des sujets sur lesquels je me transforme, que je donne à mon texte, et en le lisant, les gens vont se transformer aussi. Et moi, j'ai pas envie d'écrire autrement qu'à partir de cette énergie-là, de la métamorphose. Voilà.
C'est une si belle réponse. Oui, moi j'ai tendance à dire que les interrogations et les émotions sont miennes. Après, est-ce que c'est ça du coup l'écriture autobiographique? Je sais pas. Je pense que souvent quand on pose la question, en plus, Enfin, moi, je ne sais pas exactement où commence l'autobiographique, où ça s'arrête, etc. Mais oui, si c'est une question des thèmes et des émotions, c'est tout à fait le cas. Et je réfléchissais à, justement, à ce truc un peu matériel de, en fait, écrire un premier roman. Il me semble que c'est tellement, déjà, c'est tellement illusoire, c'est tellement fou, en fait, de s'asseoir et de se dire, je vais faire ce truc sur généralement des heures un peu volées au reste de la vie, parce que j'ai l'impression que c'est important, en connaissant les chances statistiques, pour que ce soit lu un jour par qui que ce soit, etc. Que je pense qu'il, dans mon cas en tout cas, il faut qu'il y ait une forme d'obsession, et donc cette obsession, c'est peut-être le feu ou cette chaleur-là qui anime et qui est forcément intérieur, en fait, enfin, donc peut-être donc autobiographique, point d'interrogation. Encore une fois, j'ai toujours pas complètement compris le mot, mais
oui, pour vous, c'est une catégorie qui, de toute façon, est clairement, enfin, le pacte est clair dès le départ, hein, dans le roman.
Oui, l'objet, effectivement, c'est de raconter l'autre, mais je crois qu'il y a deux choses quand même, parce que d'abord, dans la narration, il y a quand même une intrication entre Solal et moi-même. Notamment parce que la phase haute au bout de laquelle il tombe, en fait, il y a une forme de culpabilité de mon côté, parce que j'ai l'impression de l'avoir poussé vers cette phase haute. Ce qui s'est passé un jour, c'est que Solal était sobre, et puis moi, ne comprenant pas sa sobriété, que je trouvais radicale, étonnante pour un garçon de son âge, je lui ai dit, mais bois une bière, ça va. Hyper malin. Et bon, en fait, on a fait la fête, et puis cette première soirée de fête, on a entraîné des dizaines et des dizaines, et puis au bout du compte, il tombe du balcon. Donc je me sens coupable vis-à-vis de lui, ce qui veut dire que c'est aussi un des fils conducteurs du roman, c'est que... Donc voilà, ça veut dire que je m'implique dans le récit, donc évidemment il y a une part d'interrogation, et puis la deuxième chose, c'est que comme j'ai souhaité avoir cette forme de texture littéraire, j'essaie d'aller assez loin dans la description des états d'âme de Solal. Or, si on parle de choses qui se sont passées il y a 2 ans, 3 ans, je me réfère simplement à son souvenir, qui évidemment s'est érodé avec le temps. Donc je suis obligé d'interpréter, en fait, si je veux donner de la matière. Ce qui veut dire qu'il y a une projection de mes propres sentiments et de mes propres interrogations sur cela.
On se demande parfois si la littérature peut agir sur le réel. Et il se trouve que c'est une question qui intéresse beaucoup ce festival, puisque c'est ce lien-là qu'il essaye d'explorer. Est-ce que vous diriez tous les trois que vos romans ont eu une influence sur le réel, sur vos réels, déjà, à vous ?
Moi, c'est Alice. Une question qui me passionne aussi et qui est vraiment déterminante, parce que beaucoup de choses que j'ai écrites dans ce livre sont advenues ensuite dans la réalité. Et j'étais... évidemment interloquée, parce que j'avais l'impression d'être face à une sorte de phénomène surnaturel dont je ne comprenais pas bien la nature. Je ne savais pas si c'était que... Parce que cette histoire que j'ai écrite, donc, elle part de sentiments vécus, mais c'est une fiction, et je suis allée puiser à l'intérieur de moi une trame narrative. Je voulais parler d'Isor, et je me suis dit, quel récit serait le meilleur écrin pour qu'on dévoile sa personnalité. Et ces événements, ce récit, je l'ai trouvé très profondément à l'intérieur de moi, et il faisait partie de moi. Et est-ce qu'il faisait partie de moi parce qu'il allait m'arriver ? Est-ce que le fait de l'avoir écrit, ça a ouvert une brèche dans l'ensemble des possibles de mon futur et qu'il s'est réalisé ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pris conscience de l'importance fondamentale de l'acte d'écriture qui n'est pas anodin, qui est magique. On en discutait dans les coulisses. Je suis allée faire un voyage en Sicile dont je reviens dimanche dernier, parce que de voir jusqu'où je peux pousser ce bouchon que le livre a prédit des événements de ma vie, ou que le livre a lancé une dynamique d'émancipation dans ma vie qui ne s'arrête pas, jusqu'où ça peut aller, jusqu'où je peux explorer et vivre la libération que vit Isor. Quand est-ce que cette vague déferlante, jusqu'où elle va me porter, voilà.
Raphaël ?
Oui, je pense que le fait que le roman, enfin, je dirais en tout cas déjà que l'écriture du roman ait un impact, a eu un impact sur mon réel qui a été assez, assez énorme. Parce que, mais comme on l'a peut-être tous et tout un peu décrit à un moment, c'est aussi un truc un peu archéologique d'aller en soi et de creuser et d'essayer de. Et donc ça, c'est hyper transformateur. Et du coup, moi, la question qui m'occupe à partir de là, c'est comment... c'est l'alchimie d'après, peut-être, c'est-à-dire comment cette transformation personnelle, cet impact sur mon réel, par quelle manière il peut se traduire dans un impact sur d'autres réels ou les réels d'autres personnes. Et c'est pour ça que je trouve ça aussi vraiment... Ça, c'est une des grandes chances et joies, je trouve, de passer du texte dans mon tiroir au texte publié, c'est d'avoir des échanges là-dessus. Et ouais, c'est assez beau, mais c'est une grosse question. Hein.
Oui, c'est une grosse question qu'on ne va pas épuiser là tout de suite, mais on va quand même laisser à Louis le temps d'y répondre.
Oui, mais je crois qu'écrire sur... Même lorsqu'on écrit sur l'autre... provoque nécessairement des interrogations sur soi-même et donc des questionnements qui peuvent modifier notre façon d'être au monde au fond. Moi en fait l'impact le plus visible que j'ai vu sur le réel, c'est ma relation avec Solal. C'est très concret, mais l'écriture de ce livre a complètement transformé notre relation d'amitié et c'est devenu quelque chose de très fort et de très singulier parce que c'est courant des auteurs qui écrivent comme ça sur des personnages du réel. Il y a Ariane Chemin, il y a Mathieu Palin, mais avec cette relation d'amitié, ça crée encore quelque chose d'autre, quoi. Ouais. Et donc c'est très fort.
Mais merci infiniment à vous trois. Je vous invite vraiment à la lecture de ces trois premiers romans. Je ne sais pas si vous ferez comme moi l'expérience de les lire tous les trois à la suite les uns des autres, mais en tout cas, ça a représenté une très belle expérience. Vous pourrez retrouver les auteurs, bien sûr, à la table du libraire. Et puis, va suivre une autre rencontre avec Gabriel Filto-Chiba et Anouk Lejzik. Merci beaucoup à vous
trois. Merci à vous. Merci beaucoup.